Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct comme tous les jours et d'interaction avec notre invité. Cours privé, tableau d'honneur, parlez-moi de la pluie, barbecue encore. Mon invité est un visage auquel le cinéma est désormais extrêmement habitué. Le 7e art d'ailleurs l'a couronné et récompensé. C'était déjà en 2013 d'un César. C'était pour un second rôle, c'était pour Le Prénom. Il y a aussi la série... Télé, faites pas ci, faites pas ça, on va dire qu'il a terminé de le rendre extrêmement populaire aux yeux des Français. Il reste aujourd'hui à la télévision et à l'affiche surtout d'une mini-série, on dit monumentale pour certains, une mini-série événement, Germinal, adaptée évidemment de l'œuvre de Zola. Guillaume de Tonquédec, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz Télé. France Télévisions, Salto, L'Alliance signent leur première méga série française, mais aussi qui a vocation à voyager dans le monde. Une adaptation en 6 épisodes du chef-d'œuvre d'Émile Zola. C'est à découvrir en prime time ce soir sur France 2. Il faut être gonflé, avoir du cran, ou il faut être un peu téméraire pour s'attaquer à une œuvre telle que celle-là d'Émile Zola?
Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Ouais. Il faut réfléchir dans le travail, dans l'adaptation de Julien Liltier puis du metteur en scène David Ourègue. Par contre, notre posture, en tout cas la mienne, ça a été de dire qu'on s'attaque aussi, nous, les comédiens, des personnages emblématiques. Ça a été de dire ça n'est pas parce que c'est un monument de la culture qu'il faudrait le prendre avec des pincettes et l'éloigner de nous. Au contraire, il faut rentrer au cœur de l'écriture de Zola, parce que je dis que lui, je pense qu'il a dû prendre une plume d'oie, se la mettre dans les veines et puis écrire avec son sang, parce que c'est une œuvre pleine de chair, de sang, de sueur, de travail, de sentiments aussi, d'amour. Et je pense que c'était la bonne voie pour adapter cette œuvre magistrale. Et c'est une très bonne nouvelle que France Télé s'empare de notre littérature et la rendre accessible à tous. C'est une très bonne nouvelle.
Et est-ce que c'est une adaptation, on va dire, fidèle au livre? Ceux qui ont lu le livre, évidemment, ne seront pas perdus?
Non, je pense que c'est assez fidèle au livre. Là, je parle à la place de Julien Lilty et de toute son équipe qui ont adapté, parce que le format aussi est très intéressant. On a quand même 6 fois 52 minutes pour décliner tous les thèmes qui sont compris dans l'œuvre. Et il a pu grossir aussi, donner plus de place à certains thèmes, notamment, je pense, à la place des femmes. Il l'a traité de façon très intéressante. Et on n'est pas contraint par un format qui est celui des films de cinéma qui ont pu être faits avant, qui sont de 1h45, 2h maxi. Là, on a quand même 6 fois 52 pour décliner tous les thèmes, et c'est vraiment une très bonne chose.
Donc 6 fois 52, hein. Je remonte la couverture qu'on a consacrée évidemment à cette série cette semaine avec TV Magazine. Vous y jouez donc Philippe Hennebeau, le directeur de la compagnie des mines, dans le livre. Comment vous arrivez à le décrire? Est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs qui sont en correspondance avec vous? Alors c'est un personnage plutôt sombre.
C'est un personnage très sombre, qui a une vie privée lamentable.
Décousue.
Vous êtes sympa.
pour dire quoi, il est habitué des maisons closes.
Il a fait un mariage bourgeois important, etc. Mais là où il espérait, il espère l'amour de sa femme, il ne le trouve pas. Donc il va dans des maisons closes. Mais même là, c'est pas brillant. Sa prostituée favorite va lui proposer même du laudanum, c'est-à-dire de la drogue, pour essayer de libre en cas de mauvais temps. Elle lui dit voilà. Et ce personnage va finir par en prendre parce qu'il va découvrir que sa femme est infidèle et qu'elle le trompe en plus avec son neveu, ce qui est doublement difficile, la double peine, parce qu'il aimait beaucoup son neveu, à qui il compte donner une partie de la responsabilité de la mine. Donc le personnage est vraiment détruit intérieurement du point de vue personnel, et en même temps, ce qui est très intéressant dans l'œuvre de Zola, c'est qu'il est aussi un des maillons du système, c'est-à-dire qu'il a Paris, il a les financiers au-dessus de lui, et puis en dessous, la variable d'ajustement, ça devient les mineurs. Mais lui-même n'est pas un décideur.
C'est
une des pièces du puzzle, c'est ce que dénonce d'ailleurs Zola, c'est que le système est redoutable. Voilà.
Nous sommes en direct Figaro Live avec Guillaume de Tonquédec. N'hésitez pas, vos commentaires, vos réactions, vos questions surtout. Êtes-vous fidèle des films et des séries de Guillaume de Tonquédec? Est-ce que vous aimeriez le voir également des comédies comme Fais pas ci, fais pas ça, qui ont créé les grandes heures de France Télévisions et de France 2? Où aimeriez-vous le voir? Dites-nous tout. En attendant, on retrouve Sarah Lecoeuf pour les news médias du jour. Les news médias du jour, traditionnellement, on démarre par les audiences télé de la veille.
Oui, et c'est TF1 qui s'est imposé dans le tableau hier avec Koh-Lanta qui reprend un peu de couleur. Le jeu d'aventure animé par Denis Brognard a attiré 4 200 000 fidèles et 22% du public. Pour rappel, la semaine dernière, le jeu a été passé sous la barre symbolique des 4 millions et s'était même retrouvé deuxième dans le classement. France 3 suit avec le téléfilm Mauvaise Graine. C'était avec Patrick Fiori et Michel Jonas notamment. 3 600 000 curieux et 17% de parts de marché. Et la fiction toujours sur M6 avec Red 2, film avec Bruce Willis notamment, qui a été regardé par 2 300 000 téléspectateurs et 11% de parts de marché. Et puis ça va vous intéresser, Guillaume, puisque le prénom, la pièce dans laquelle vous avez joué au théâtre Édouard VII aux côtés de Patrick Bruel, eh bien, était rediffusé hier soir sur W9. Eh bien, c'est un joli succès, puisque plus de 500 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, ce qui représente 2,5% de part d'audience.
Oui, ce qui veut dire que presque 10 ans après, la pièce continue à intéresser le public et à séduire. De toute façon, je pense que les deux auteurs de La Porte et de La Patellière, ils ont écrit un film qui est devenu un classique, quoi, donc que les gens ont pris le plaisir à retrouver. Donc, je pense que le film est devenu un film classique, quoi. Il aura une très belle carrière. Tant qu'il sera diffusé, quoi.
Et c'est toujours un très bon souvenir pour vous ?
C'est un souvenir exceptionnel. D'abord humain, pour les gens qui étaient en présence. Je pense à Valérie Benguigui qui nous a quittés malheureusement. Je demande aux femmes, n'hésitez pas à vous faire dépister pour un éventuel cancer du sein. Ça n'est pas très long et c'est très important. Et puisqu'elle est morte de ça, Valérie, et que en dehors de ce drame, on a eu beaucoup de moments très joyeux, et que la pièce, on l'a jouée pendant un an, la pièce est devenue un film. Ils ont gardé les acteurs de la pièce pour faire le film, et on est nommé au César, alors que c'est une comédie et que les comédies n'ont pas forcément très bonne presse au César. Bon, c'est une comédie, je pense, de haut niveau. C'est ce qui explique cette nomination. Et en plus, Valérie et moi, on le chope, on repart avec les Césars des meilleurs seconds rôles. Donc évidemment, c'est un très 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 bon souvenir.
Allez, on poursuit ces news médias avec le petit-fils Jean-Paul Belmondo qui revient sur l'hommage qui a été fait à son grand-père aux Invalides.
Oui, hier soir, Victor Belmondo était l'invité de C'est à vous et il a appris à Anne-Elisabeth Lemoine que son grand-père aurait apprécié la cérémonie qui lui a été rendue 3 jours après son décès. C'était aux Invalides début septembre. Je pense qu'il est très content de ce qu'il a vu de là où il est, a assuré Victor Belmondo, qui, je vous le rappelle, c'est lui qui avait donné le discours au nom de toute la famille Belmondo. Alors, il explique que les autres ne se sentaient pas forcément de le faire et j'étais heureux de rendre hommage à mon grand-père, a-t-il encore ajouté.
On va pas parler de la carrière, du talent de Jean-Paul Belmondo et des hommages. Vous avez jamais tourné avec lui ?
Malheureusement non, mais je vais tourner avec Victor. C'est ce que je disais à Sarah dans un film qui s'appelle « Arrête avec tes mensonges » tiré du livre éponyme de Philippe Besson. Voilà, ce sera réalisé par Olivier Payon. On tourne ça en novembre-décembre. C'est un très très beau scénario et toutes mes scènes sont avec Victor, donc je suis très content de le rencontrer, de travailler avec lui. Ouais.
Il a quelque chose d'ailleurs de Belmondo, de Jean-Paul Belmondo.
Il lui ressemble et on s'est rencontrés déjà, on a fait une lecture, etc. Et c'est quelqu'un c'est un compliment dans la bouche, de très bien élevé et qui aime le travail, parce que le scénario est très particulier et je pense qu'on va beaucoup s'amuser, beaucoup travailler. Mais Belmondo, évidemment, j'aurais adoré travailler avec lui parce que malgré tout, il laisse une trace, cet homme-là, ne serait-ce que de l'amour de son métier. Et c'est un vrai exemple de communicatif pour nous aujourd'hui, quoi.
Et on termine donc ces news médias sur un ton plus léger. La nouvelle saison de The Voice est déjà en préparation et on connaît déjà les membres du jury.
Oui, et alors pas de surprise, ce sont les mêmes que ceux qu'on avait vus dans la saison 10, à savoir Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny, l'historique. Alors pour la première fois depuis 2013 et la saison 2, eh bien les téléspectateurs retrouveront le même quatuor 2 années de suite, 2 saisons de suite. Et le début du tournage commencera début décembre.
Ce type de divertissement comme The Voice, c'est votre cam, comme on dit, ou c'est plutôt celle de vos enfants ?
J'avoue que j'adore les belles voix, moi. Donc, de temps en temps, j'ai regardé The Voice sans suivre tout le déroulé. Mais on se prend, c'est très, très bien fait, donc on se prend à le regarder. Et j'adore, c'est toujours la surprise quand l'homme ou la femme va se mettre à chanter, de voir ce qui va sortir de ce corps, si j'ose dire. Et moi, j'adore les belles voix. Donc, oui, mais t'es arrivé de regarder, ouais, avec plaisir.
Et les enfants ?
Et mes enfants aussi, ouais, bien sûr. Ouais.
Merci Sarah pour ces news médias et place tout de suite à l'interview de Guillaume avec le Buzz TV. Je rappelle dans Germinal, la mini-série événement de France 2, lancée en grande pompe. Globalement, on a vu une énorme promotion et donc une très grande pression, on imagine aussi sur évidemment les producteurs, les réalisateurs, mais également sur vos épaules. Quelques chiffres, je rappelle, 20 protagonistes. Un casting 5 étoiles, notamment Alex Poisson et également Thierry Godard, qui joue dans cette mini-série. 2400 figurants, 700 costumes, 2 millions d'euros de budget par épisode. C'est un peu comme le bazar de la charité, on pourrait dire, de TF1 et Netflix. Est-ce qu'on est dans la même ambition ?
Je viens de présider le Festival de La Rochelle. J'étais membre du président du jury du Festival de La Rochelle, qui est une fiction télévisuelle. Et j'y ai vu des choses de très, très haut niveau en France et en Europe et dans le monde. Donc ça m'a réjoui, parce que je me suis dit la télévision n'a rien à envier au cinéma, que ce soit pour les auteurs, les écritures, donc sur le fond et aussi sur la forme. J'ai vu dans les formes courtes des choses très culottées, très gonflées, très imaginatives, très inventives. Donc je pense que la télévision a de beaux jours devant elle, et il était nécessaire que la télévision française se mette au niveau international, si elle en avait besoin. Mais là, je pense qu'elle y arrive, et Germinal est un de ces exemples-là, et je trouve que c'est quelque chose de très important que France Télévisions, dont c'est, je pense, la mission de service public, rende hommage aux grands auteurs. Elle l'avait déjà fait, bien sûr, mais avec cette puissance-là, c'est très intéressant, et qu'il y ait une vocation à ce que ce soit vendu à l'international et de faire parler de nos auteurs, c'est une très bonne chose.
C'est la plus grosse production télé à laquelle vous participez, vous pensez à date ?
Oui, c'est la plus grosse, oui. Ouais. Mais on travaille de la même façon, hein. Il y a un enthousiasme.
L'argent ne change rien, le fait qu'il y ait beaucoup de moyens, vous parliez notamment.
Je travaille exactement de la même façon, en tout cas moi, comédien, je travaille exactement de la même façon. Quel que soit, une fois qu'on a dit oui et qu'on est passionné par le sujet, ce qui était le cas, on y va vraiment à fond, quoi. Il n'y a pas de problème.
Sarah, première question ou réaction des internautes qui nous suivent.
Oui, parce que nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Et j'ai noté ce commentaire sur Twitter de Tartarin des Mouches. Ouais, ça ne s'invente pas comme pseudo. Comment faites-vous pour jouer un salopard pareil ? Moi, je ne pourrais pas. Voilà, une bonne question.
C'est un salopard pareil.
Oui, c'est une bonne question.
C'est direct.
Le personnage, comme je l'ai dit, la variable d'ajustement, la seule chose sur laquelle il puisse appuyer, ce sont les mineurs. Donc, il va réduire les salaires pour essayer d'augmenter la marge et de baisser les coûts de production de façon très cynique et sans vergogne. Donc c'est un personnage, oui, qui est un destructeur d'êtres humains. Il va même sacrifier pour la sécurité de façon à faire une marge encore plus importante, et évidemment des accidents vont arriver. Donc c'est pas un personnage sympathique du tout, mais il faut bien savoir que pour répondre à Tartarin de Tarascon, des mouches, je trouve qu'un comédien, son rôle, c'est d'explorer l'âme humaine, et qu'on fait tous des cauchemars la nuit, qu'on est obligé là d'être très poli entre nous, mais on est traversé par des pensées beaucoup plus noires ou beaucoup plus joyeuses d'ailleurs, mais qu'on est la politesse nous oblige à les garder pour nous, et pour autant on est des êtres, je pense, assez complexes. Ce personnage-là en est un, et que le rôle du comédien, c'est de tendre un miroir à ses contemporains en lui disant: regardez, c'est une possible humanité, vous auriez pu être ça et de vous identifier ou non à lui, quoi. Voilà.
Est-ce que la mini-série, elle résonne d'une certaine manière aussi avec notre époque, hein, par l'adversité entre milieu ouvrier, les bourgeois? Il y a également du féminisme, hein, dans cette mini-série. Comment ça a été interprété aujourd'hui par les comédiens notamment?
Ce qui m'a frappé, c'est que, là je cite encore Julien Lilti, le scénariste, c'est que lui, il a dit: je n'ai pas modernisé, j'ai pris les thèmes qui sont dans Zola, et que les thèmes sont toujours les mêmes aujourd'hui. Heureusement, il y a eu des avancées considérables, et tant mieux, c'était nécessaire du point de vue social, protection, sécurité. Mais il y a des phrases qui résonnent encore très fortement aujourd'hui, et il y a certainement des endroits où on peut gagner tous en fraternité, j'ai envie de dire, en sécurité, puis en qualité de travail. Mais en tout cas, les phrases de Zola continuent à résonner aujourd'hui, et notamment sur le féminisme aussi, également, sur la place des femmes. Et il y a la Maheude, qui est magnifiquement jouée par Alix Poisson, est un personnage emblématique et extraordinaire, qui veut d'abord protéger sa famille et ses enfants, leur donner à manger tout simplement, et puis qui va s'engager politiquement pour essayer d'améliorer le sort de tous, quoi. Donc ça vient des femmes, c'était très joli ça.
Des phrases, on rappelle, vraiment, a été publié en 1885. Est-ce que vous l'aviez déjà lu à l'époque, peut-être au collège ou au lycée ?
Alors je l'avais lu à l'époque, et c'est toujours intéressant de le relire beaucoup plus tard, parce que moi j'étais un piètre lecteur, je suis toujours un peu un piètre lecteur, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire. Donc je le dis d'autant plus parce qu'avant, c'était quelque chose que je cachais. Et puis on m'a dit: est-ce que vous vouliez faire un livre sur votre rapport à la littérature ? C'est devenu un livre qui s'appelle « Les portes de mon imaginaire ». Et dedans, j'y raconte que c'était très difficile pour moi de lire, d'apprendre à lire et à écrire. Et du coup, que cette fiction de Zola puisse d'abord devenir un objet télévisuel peut amener à la lecture après. Parce que si on a été séduit par les images, on pourra d'autant plus s'emparer du livre, et c'est une très bonne chose.
Ça peut être un outil d'éducation, à la limite.
C'est un outil éducatif. Et en plus, vraiment, la série se regarde, j'allais dire, comme un polar, hein, tellement elle est bien faite. David Oureg, le metteur en scène, a fait un travail spectaculaire. La série est spectaculaire et bouleversante. C'est vraiment, il y a une musique aussi d'Audrey Ismael, magnifique. C'est vraiment une vraie proposition de, j'allais dire, de cinéma, c'est-à-dire d'engagement dans l'image, dans la mise en scène. Et la télévision n'a rien à envier au cinéma de ce point de vue-là avec cette série.
Sarah.
Oui, j'ai une question d'ailleurs qui va rebondir sur ce que vous venez de dire. Vincent se demande si vous allez faire la tournée des écoles et des classes pour justement parler de Germinal et d'éveiller.
Alors, on est allé dans un collège dans le 13e arrondissement. Ils ont vu le premier épisode et nous, on arrivait pendant le générique. Ils ne savaient pas qu'on entendait. Et ils ont applaudi à tout rompre, les élèves de ce collège. Ils ont été très, 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 très enthousiastes. La première question que j'aurais posée, c'est est-ce que vous avez envie de voir la suite ? Ils ont tous hurlé oui. Je crois que parce que c'est aussi une histoire de jeune Lantier, ce jeune syndicaliste qui arrive, qui va tomber amoureux aussi. Ça parle d'eux. Hein. C'est principalement, il y a une Louis Pérez, Jonas Bloquet, les deux noms d'acteurs jeunes comme ça qui sont engagés dans cette série sont formidables. David Oureg a un réservoir de jeunes comédiens qui seront à l'affiche en premier rôle demain, je le leur souhaite. Ils ont en tout cas toutes les capacités, tout le talent pour. Et pour revenir sur l'histoire du collège, moi j'ai accepté parce que c'est des rencontres comme celle-là qui ont changé ma vie. C'est une prof de théâtre qui est venue nous donner des cours de théâtre au collège et c'est devenu mon métier. Et j'étais trop timide pour oser pousser la porte d'un cours et c'est le théâtre est venu à moi grâce à l'initiative de cette prof. Donc moi je dis toujours, et je l'aurais dit aux élèves, si vous avez des profs qui ont changé votre vie, dites-leur merci, c'est important, vraiment.
Je rappelle, l'œuvre d'Émile Zola a été multi-adaptée hein, au cinéma. On peut citer notamment évidemment la version, c'était en 93 de Claude Berry avec Renaud, Miu Miu ou encore Gérard Depardieu, des monuments. Ça a changé un peu finalement la perception de l'œuvre de Zola. Est-ce que c'est très différent aujourd'hui de ce qu'on découvrira ce soir dans Germinal ?
C'est différent parce que, encore une fois, le format est différent. Berry, il était contraint par un film de cinéma qui ne peut pas faire tellement plus de deux heures. Hein, sinon, après, ça devient trop compliqué en termes de diffusion dans les salles pour les séances de 14, 16 heures, 18 heures, etc., 20 heures. On avait plus de temps, les scénaristes avaient plus de temps, donc ça c'est la nouveauté, on explore plus des thèmes qui étaient seulement effleurés dans les autres, notamment cette histoire du féminisme, mais aussi les personnages, l'intensité, comment dire, la vie des personnages, donc ça on a un peu plus de temps, et je dois dire que je suis assez ébahi par le premier épisode qui place tous les personnages et leurs intrigues très rapidement, et on est tout de suite... Ça commence par une explosion, on peut le dire, dans une mine.
Sans
on est au cœur du sujet tout de suite, dans les premières secondes. Et après, on est vraiment happé par l'aventure. Quoi.
Sans jeu de mots, donc, les titres de la presse hein, sur la promotion de cette nouvelle série. Un coup de grisou miné par le mélo. Donc ça, c'est dans le Figaro du jour. Une expérience un peu hasardeuse selon Le Monde. Un peu étriquelée sur une journaliste de France Inter. Monumentale sur Le Parisien qui consacre 3 pages quand même, et sa couverture ce matin à cette série. Vous avez l'habitude ou pas des critiques si vous trouvez ça ça vous effleure et finalement c'est pas très important ou au contraire vous en tenez compte réellement par rapport à ce qui va être la perception du public quand il va découvrir cette série ?
Les critiques c'est le premier public mais c'est un métier donc c'est particulier parce qu'ils sont obligés de réfléchir et tant mieux d'ailleurs
au sens
à ce qu'ils ont vu et moi quand une critique est mauvaise ou bonne ce qui me plaît c'est quand elle est constructive et qu'elle explique pourquoi et après le public se fera son propre avis, il sera d'accord ou non avec ce qui a été écrit donc moi j'aime bien les critiques argumentées, ça ne me déplaît pas du tout de lire une mauvaise critique si elle est argumentée, chacun, heureusement on est en France, on peut encore avoir un avis critique et tant mieux. Donc non, j'accueille la critique avec plaisir si elle est bonne et avec réflexion si elle est mauvaise, mais bien construite.
C'est dit. Sarah.
Oui, j'ai plusieurs internautes qui me demandent des questions un peu sur les coulisses. Où et quand avez-vous tourné notamment ?
On a tourné entre Lille et Valenciennes dans les vrais sites miniers du nord de la France. Et puis, il y a une sans spolier, mais regardez, c'est vers la fin de la série, la mine est envahie par l'eau suite à un nouvel accident. Donc, c'est des images assez extraordinaires. Ça a été tourné en Belgique, dans un studio spécial. On peut mettre des caméras, immerger des caméras sous l'eau, des comédiens aussi et des décors. C'est un endroit assez extraordinaire. Et je voulais juste dire une précision. Ajouter une précision plutôt, c'est que dans les figurants, vous avez cité 2400 figurants, il y a beaucoup de gens qui sont venus parce qu'ils étaient soit anciens mineurs, puisque les mines ont fermé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était dans les années 80 en France, soit fils ou petit-fils, petite-fille de mineurs. Donc il y avait vraiment une ambiance très particulière sur ce plateau de tournage, très émouvante, des gens qui étaient là pour gagner leur vie, certes, mais pas seulement. Ils sont venus aussi parce qu'ils étaient engagés dans l'histoire de leur région et dans leur histoire familiale. Et ce qui m'a frappé en préparant aussi la série, c'est que c'est vraiment un métier absolument atroce, mineur. Et tous les témoignages qu'on a pu avoir, c'est que malgré tout, ces gens-là étaient fiers de leur métier et qu'il y avait une solidarité très forte entre eux. Donc une humanité qui a contaminé, je pense, dans le bon sens du terme, toute l'équipe du tournage. Et d'ailleurs, David Oreille est allé faire une projection là-bas spécialement pour eux.
Est-ce que cette super production, on n'arrête pas d'en parler, peut donner le change aux géants du streaming, on voit aujourd'hui, et de la SVOD, la vidéo par abonnement en ligne, on voit qu'il y a quand même de grosses batailles, y compris du cinéma français, avec Netflix ou voire également Amazon qui ont pris pied sur le marché français. Il y a une rivalité, ou plutôt par rapport à ce que vous disiez, il y a aujourd'hui plutôt des ponts entre les gens du cinéma, les gens de la télévision, la SVOD avec notamment Netflix, drague globalement, on va dire, un peu toutes les stars, en ce moment françaises notamment.
Oui, mais moi je pense qu'il y a des ponts possibles, que la production de cinéma, on le voit, les salles en ce moment, il y a le Covid, c'est sûr, qui accélère les choses, c'est pareil pour les théâtres, les gens sortent moins, malheureusement, j'espère que aller au théâtre, je vous en supplie, au cinéma, vous ne risquez rien que d'avoir du plaisir ou de l'émotion, donc vraiment retournez-y. Mais en effet, la façon de produire demain va être différente de celle d'hier. Donc je pense que des accords sont tout à fait souhaitables, possibles et nécessaires entre les diffuseurs classiques, TF1, France Télévisions, etc., M6, mais aussi les plateformes pour réinvestir dans le cinéma. Et que je pense qu'il y aura des interactions vertueuses pour tout le monde, à commencer par le public. Ouais.
Sarah.
Oui, alors je m'y attendais, il y a plein de questions aussi sur « fais pas ci, fais pas ça », parce que forcément, vous avez marqué les esprits. Et on me demande, Rico me demande si un retour est prévu. C'est vrai que vous avez fait un épisode de Noël spécial l'année dernière, qui a bien marché.
Un unitaire.
Est-ce que ça a donné envie aux producteurs et aux scénaristes de se relancer dans l'aventure ?
C'est-à-dire que quand on a terminé, on avait déjà envie de reprendre, nous, les comédiens, le producteur Guillaume Renouille, le diffuseur France 2, Fanny Rondeau aussi, qui s'occupait de la diffusion de la série. Tous les gens, on a tous été marqués par cette série. Elle a changé notre vie, à commencer par moi. Elle m'a apporté la popularité. Donc on adore ces personnages. Les gens me disent, mais vous devez en avoir marre. J'en ai sûrement pas. Je bénis Renaud Lepic et on en parlera le jour où je mourrai, et tant mieux, parce qu'il m'a apporté le plus beau des cadeaux pour un comédien, la popularité. Mais pour répondre à la question de Rico, donc c'est que si on trouve à nouveau un auteur qui a un bon sujet, et un bon metteur en scène, on y retournera, mais pas sous forme de série, mais pour des épisodes exceptionnels comme celui de Noël.
D'accord.
C'est pas encore en production, ça n'est pas encore écrit, il n'y a pas de projet, mais il y a une volonté. Oui.
Ce ne sera pas ce Noël 2021, malheureusement.
Non, c'est trop court, c'est pas encore. Il faut au moins un an pour écrire, tourner.
Peut-être des vacances ou...
Oui, tout est possible. Oui. Les deux familles en vacances, il y a tellement de sujets possibles que pourquoi pas, bien sûr.
Alors, dans un autre registre, on vous a vu récemment dans une affaire française, une fiction qui s'inspire de l'affaire Grégory. Elle n'a pas vraiment eu le succès escompté, hein, 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Comment on l'explique ? C'est quoi ? Il y a eu trop de documentaires, à commencer par celui de Netflix, d'ailleurs, sur l'affaire Grégory.
Je pense. Alors, je sais que.
C'est le caractère anxiogène, globalement, de la sortie du Covid.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons qu'on pourrait trouver. Vous savez, quand il y a des lois qui dictent le succès, comme disait Louis Jouvet, mais personne ne les connaît. Donc. Et c'est pareil pour l'échec, c'est toujours, on trouve plein de raisons après coup pour expliquer un échec ou un succès. Mais bon, est-ce qu'on donne les vraies raisons ? Je ne sais pas, est-ce qu'on les trouve ?
C'est une déception quand même.
C'est une vraie déception, d'autant que la qualité était au rendez-vous. Christophe Lamotte avait fait vraiment une très très belle adaptation pour pouvoir avoir une mise en scène, et Jérémy Guez à l'adaptation du scénario. C'était très très intéressant. On replongeait au cœur de l'affaire avec respect, c'est pour ça que j'ai dit oui, sinon moi je ne l'aurais pas fait. Mais je pense qu'en cette rentrée, où vraiment on en a pris plein la figure, pour rester poli, tous, dans nos vies, dans nos vies personnelles et dans notre travail, je pense que ce sujet-là, peut-être aussi sur TF1, avec aussi, bon, c'est une pensée plus personnelle, des encarts publicitaires peut-être trop nombreux ou qui coupent un peu la direction de la narration sur un sujet aussi difficile et aussi sensible. Peut-être ça n'a pas aidé. Et puis peut-être, je pense que les gens n'avaient pas très envie d'entendre parler de la mort d'un enfant dans une rentrée qui est vraiment très difficile. Mais pour autant, j'engage les gens à le regarder en replay ou de la façon qu'ils voudront, parce que je trouve que c'est une vraie réussite. C'était très, très passionnant à faire et je pense très respectueux des personnages toujours en vie et qui cherchent toujours la vérité sur
exactement,
le
exactement, c'est pas une affaire qui est terminée.
Non, c'est pas terminé, oui, bien sûr.
Sarah.
Oui, je vais poser la question de Charlotte. Quelle adaptation cinématographique de Germinal avez-vous préférée?
Ah,
pour en
alors,
revenir à Germinal.
Et j'ose dire, allez, j'assume celle de David Oureg qui passe à partir de ce soir sur France 2. Oui, c'est vrai, parce que je trouve que... on peut regarder ça comme un polar, comme une. Il y a tous les ingrédients. C'est une immense histoire d'amour, c'est une immense histoire de combat pour nos métiers, c'est une immense histoire aussi sur la solidarité, sur des valeurs fortes. Ça a un écho aujourd'hui très intéressant. Donc, je trouve que vraiment la mise en scène de David et c'est vrai. Regardez ça. Moi, j'ai regardé ça comme un. C'est un spectacle spectaculaire et très émouvant. En même temps, il y a tous les ingrédients que j'aime bien, moi, vraiment.
Vous regarderez à nouveau ce soir, donc.
Je regarderai à nouveau ce soir, ouais, ouais. Oui, j'aime bien en plus. Ouais.
Vous l'avez dit, il y a quelques semaines, vous étiez président du Festival de la Fiction de La Rochelle. Comment, monsieur le président, vous avez vécu cette expérience?
C'était passionnant. Passionnant d'abord parce qu'il fallait voir 42 œuvres, ce qui représente...
Ouais, ça fait du boulot, ça.
Une cinquantaine d'heures de visionnage, à peu près. Mais j'ai vu des choses extraordinaires. Ça donne vraiment une photo de la fiction française, européenne et internationale à un moment T. Et je trouve que la télé, comme je le disais, n'a rien à envier au cinéma. Il y a des propositions, et sur le fond et sur la forme, passionnantes. Et puis, il a fallu choisir mon jury. Donc, j'ai pris que des gens que je ne connaissais pas. Pour que la discussion soit vive, parce qu'il fallait remettre ses prix. Et je suis très fier du palmarès qu'on a dégagé après toutes ces discussions. Ouais, vraiment.
Ouais. Et notamment, on peut le rappeler, La Vengeance au triple galop d'Alex Luce. Hein, qui est,
oui, alors on a créé, j'ai demandé à créer un prix de la comédie qui n'existait pas à La Rochelle pour pousser les diffuseurs et les auteurs à écrire plus de comédies. C'est vraiment l'un des genres les plus difficiles à écrire, et les diffuseurs et les producteurs m'ont dit c'est bien d'avoir créé ce prix, mais encore faudrait-il qu'on ait de bonnes propositions. Donc j'invite tous les auteurs à s'y mettre. Quoi.
Que les producteurs sont plutôt frileux à l'égard des comédies.
Non, c'est que c'est pas ça, c'est que c'est difficile à écrire et que donc ils en trouvent très peu, et qu'il y avait majoritairement 90% de drames dans tout ce que j'ai eu à visionner avec mon jury. Ouais.
Sarah.
Juste, il y a l'enfant de personne
avec Isabelle Carré,
qui a été primée. Vraiment, ouais. Regardez ça quand ça passera, c'est France Télévisions. Immense film sur les enfants placés, fait par Hakim Isker. Formidable film, très bouleversant et thème de société vraiment important. Donc, je me permets de le dire. Ouais,
voilà. Et qui dit primé au festival, celui-là ou Sérimania, par exemple, il y a deux grands festivals aujourd'hui sur les séries en France. C'est quoi? C'est la garantie d'un succès ou pas, ou non, finalement?
Non, c'est la garantie d'un coup de projecteur, que la presse s'y intéresse peut-être un petit peu plus, mais la garantie d'un succès, non. Par contre, de montrer notre intérêt, oui, c'est sûr. Et je pense que cet enfant de personne, s'il est suivi d'un débat, ce qui serait vraiment bien pour expliquer et que chacun puisse donner son point de vue. Je trouve que c'est très courageux de la part du service public d'avoir attaqué un autre service public qui est comment on place tous ces enfants. Il faut savoir que un SDF sur quatre est un enfant placé. Donc c'est un vrai problème de société auquel il faut s'attaquer. Quoi.
Une dernière question, Sarah.
Une dernière question. Est-ce que vous aimeriez tourner pour Netflix ou d'autres plateformes de streaming? Demande Fabrice.
J'adorerais. Ouais. J'adorerais. Enfin, je n'ai pas de religion contre. Au contraire, c'est la télé de demain et il faut suivre le mouvement. C'est plutôt vertueux, j'espère. Et puis c'est surtout que ça permet une explosion de l'imaginaire des auteurs et des réalisateurs exceptionnelle. Et pour le premier gagnant, c'est le public. Donc oui, pourquoi pas.
Et derrière, il y a un internel débat. Et faut-il intégrer Netflix, OCS, Amazon dans les festivals du cinéma?
À Cannes, pour ne pas les citer.
À Cannes.
Oui, c'est un très bon débat. Le problème, c'est un problème de finances. Comme ils ont de l'argent, ils sont évidemment dragués par tout le monde, et tant mieux. Et s'ils peuvent aider le cinéma, c'est une bonne chose. Je pense que tout ça va beaucoup bouger dans les mois et les années qui arrivent. Ouais.
Alors en attendant, fais pas ça l'année prochaine, Noël peut-être, peut-être 2022. On va vous retrouver où au cinéma. Vous n'arrêtez pas de tourner également à la télé. Rendez-vous avec le public. Le
prochain rendez-vous, c'est au théâtre. Je vais jouer une pièce qui s'appelle Times Square au théâtre Montparnasse à partir du mois de janvier et j'espère jusqu'au mois de juin. Et c'est une très très belle pièce qui parle là aussi de solidarité. C'est un acteur sur le retour qui était en pleine dépression et qui va remonter la pente parce qu'on va lui demander de coacher une jeune fille qui prépare le rôle de Juliette, de Roméo et Juliette de Shakespeare et qui va reprendre goût à la vie parce qu'il va enfin reparler de son métier avec cette jeune comédienne. C'est une très 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 belle pièce. Guillaume de Clément Coche, voilà, mis en scène par José Paul,
donc,
mon copain
donc,
qui avait fait La Garçonnière.
Janvier
à juin, normalement, prochain, ouais, au Théâtre Montparnasse.
Allez au théâtre, donc.
Allez au théâtre, Guillaume. Ou au moins allez au Théâtre Montparnasse à partir de janvier.
C'est dit. Allez, on vous garde, Guillaume, encore un peu pour notre dernière rubrique. Encore un peu avec nous, ça s'appelle « En toute franchise ». En toute franchise, vous nous répondez comme vous l'avez fait jusqu'ici avec la plus grande sincérité possible. Votre plus beau souvenir de carrière ?
Plus beau souvenir de carrière, ça c'est alors là, c'est difficile. Je crois que j'ai envie de parler du début peut-être. C'est cette fameuse prof de théâtre qui s'appelait Colette Aumont et qui est venue nous donner cours dans ce cours de français chez ma prof de français Françoise Gaillard. J'aime bien citer les gens que personne ne connaît, mais c'est important. Oui, ce moment où cet enfant timide que j'étais, qui n'aurait jamais osé pousser la porte d'un cours, à l'extraordinaire chance que le théâtre vienne à lui grâce à l'éducation nationale et à cette prof de français qui a dit il y a du théâtre au programme, donc on va jouer les pièces plutôt que de les lire, et ça a été le début de ma vocation. Donc c'est ce souvenir de ce premier cours où vraiment littéralement j'ai décollé sur scène et je me suis dit l'enfant timide s'est dit c'est ça que je veux faire quoi. Et puis c'est parce que ce souvenir là est contenu dans tous les suivants quoi, en fait, c'est pour ça que je vous parle.
Ça vous a donné le goût de la lecture, si on a bien compris.
Et ça m'a donné le goût de la lecture que je n'avais pas, qui était vraiment une torture pour moi, notamment en écoutant Gérard Philippe lisant des textes, notamment Pierre et le Loup, et parce que je pouvais lire les mots écrits et dits en même temps par Gérard Philippe, donc c'était plus facile pour moi. C'est pour ça que je dis aux gens, regardez Germinal et lisez le texte après. Parce que c'est, honnêtement, Zola est très difficile à lire. C'est compliqué, c'est riche, c'est dense, il y a beaucoup de vocabulaire. Donc je trouve que la porte d'entrée de la série est une très bonne chose.
Et quel est votre pire souvenir maintenant ?
Mon pire souvenir, oh là là. Mon pire souvenir, ouais, mais je peux pas parler de ça. Mon pire souvenir, si c'est qu'on est, on a un metteur en scène que je ne citerai pas a changé ma voix quand j'étais pas connu. J'ai joué un petit personnage dans un film et ce metteur en scène s'est permis de changer ma voix parce que ce metteur en scène trouvait que je jouais faux. Il s'est excusé depuis, j'ai accepté ses excuses, même si ça a été un moment qui a failli me faire arrêter de jouer, parce que j'étais élève au Conservatoire de Paris. Et c'était vraiment un événement très traumatisant. Mais en fait, je la remercie aussi, ce metteur en scène. Qu'on ne citera pas. Parce que finalement, ça m'a permis de réfléchir sur mon métier, d'être sans doute plus fort aujourd'hui. Ouais. Mais à un moment, ça aurait pu me faire arrêter, c'est ça que j'aurais regretté. Donc, je suis breton, je suis têtu, vive la Bretagne, voilà.
La plaie est refermée quand même.
Voilà, oui, oui.
Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc quand vous rentrez sur un plateau de tournage ?
Il y a plein de tocs. Alors, c'est plus au théâtre et plein de superstitions. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Toutes ces superstitions viennent très souvent de la marine, puisque les premiers techniciens de théâtre étaient des gens qui venaient de la marine et qui savaient travailler, voilà, hisser les voiles et hisser du coup les décors. Donc, il y a plein de choses qui viennent de la marine. Notamment, on ne peut pas parler, on parle de l'animal aux grandes oreilles dans un bateau, parce que les cales étaient en bois et que c'était les rats ou les lapins qui rongeaient la coque et qui, évidemment, pouvaient créer des voies d'eau. Donc, pareil, dans un théâtre, on ne dit pas le nom de cet animal, on ne cite pas, mais là on peut
et du coup, on est sur un plateau, donc je ne peux pas le dire. Personne, du coup, vous, c'est pas vous qui hissez, j'imagine, les
décors. Non, mais à titre personnel, d'abord je respecte ces superstitions, d'essayer de ne pas porter du vert, etc. Sauf si c'est une demande de la mise en scène, parce que j'aime beaucoup la couleur verte, bon, voilà. Mais,
ça porte malheur, hein, c'est ça le vert.
Oui, parce qu'il y a eu l'une des explications, c'est qu'un comédien aurait été intoxiqué par une teinture en contact avec sa peau et le vêtement, qu'il y aurait eu du cyanure dedans, il serait mort avec la porosité de la peau qui aurait absorbé ce cyanure. C'est l'une des explications. Il y a toujours plein d'explications, c'est comme on n'offre pas des œillets à une femme, parce que ça porte malheur le jour d'une première, c'est les vendeurs de roses qui ont inventé cette superstition parce qu'ils ne voulaient pas perdre le marché. Donc voilà, il y a plein de choses très, très marrantes. Mais moi, oui, non, je fais attention à certaines choses. J'ai un peu des tocs, ouais, je ne sais pas.
Gratter le menton, par exemple, ça vous permet de le faire
Oui, non, c'est bizarre. Ouais, je regarde derrière ma porte avant de sortir, par exemple. C'est très bizarre. Alors que la porte, il n'y a rien derrière la porte. Hein. Mais avant de quitter ma loge, je regarde derrière ma porte. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est très bizarre. Je discutais de ça avec Patrice Lecomte il n'y a pas très longtemps, qui a plein de tocs aussi. C'était assez amusant. On a bien rigolé.
J'ai partagé vos tocs.
On a partagé nos tocs. On est confrères de tocs.
Quel métier auriez-vous exercé si vous n'aviez pas été comédien ?
Puéricultrice, puisque le mot n'existait pas, je me souviens être allé dans un... C'est-à-dire ceux qui s'occupent des enfants, tout ce qui est autour de l'éducation, ouais. Je pense que ça m'aurait beaucoup plu, la transmission, voilà, c'est la pédagogie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai eu la chance de donner quelques cours de théâtre ou de préparer quelques personnes pour des concours de théâtre, et ça me plaît énormément. Peut-être qu'un jour, du coup, je réaliserai parce que la direction d'acteur me plaît. Et sinon, j'étais passionné, et je le suis toujours, par la géologie, et la gémologie, les pierres précieuses, la création de la Terre, je pense que c'est un métier que j'aurais beaucoup aimé faire aussi.
Si vous pouviez faire renaître une seule personne célèbre, ce serait qui ?
Ah, ça c'est une excellente question. Qui je ferais renaître ? Peut-être Martin Luther King. Oui, j'aurais adoré dialoguer avec cet homme-là. Ses paroles résonnent encore aujourd'hui. Mais je mets Simone Veil, les gens, j'ai droit à deux. parce que je trouve qu'on a profané une stèle il n'y a pas très longtemps, en Bretagne, pas loin de là où je vais en vacances. C'est un acte, je me suis dit, quel dommage que ces gens n'aient pas eu le courage de faire ça de son vivant. Ils auraient été bien reçus, je pense, par elle. Et puis de penser au combat qu'elle a mené, notamment pour l'Europe, qui en a bien besoin en ce moment, et pour la protection des femmes et le droit à l'IVG, je pense que c'est vraiment très important. Et puis ce qui m'a frappé là, c'est que je me suis dit, tiens, on croit que les combats, c'est acquis, et en fait, non, des grandes causes comme celle-là, il faut sans cesse rallumer la flamme. Et le seul intérêt de cette profanation absolument lâche, immonde et atroce, et surtout tellement bête quand on voit ce qui a été écrit sur la... Bon, en confondant l'histoire, c'est vraiment l'IVG, le nazisme, vraiment un foutraque de bon. Alors, en tout cas, ce qui m'a plu, le seul intérêt, c'est que ça a permis de reparler de ces valeurs-là, de cette femme-là extraordinaire. Donc vraiment, je ferais bien un repas, voilà, avec, quand je dirais au ciel là-haut, avec Luther King et Simone Veil.
En plein débat sur l'IVG actuellement aux États-Unis, si en effet vous suivez.
Bien sûr, c'est pour ça que c'est des choses importantes à défendre, ouais, bien sûr.
Vous savez, l'élection présidentielle se tient dans quelques mois, admettons.
Il paraît.
Vous devenez chef de l'État. Ouais. Quelle est la première mesure que vous prenez ?
Ah, soyons fous, allez.
Je pense que, alors évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, je pense que l'éducation, alors là, pour le coup, Mandela, hein, Mandela aussi, il sera du dîner. Il a dit ce que disent plein d'autres gens, des grands penseurs, des grands humanistes, c'est que l'éducation, le droit à l'éducation pour les femmes et pour les hommes partout dans le monde serait l'une des clés pour arrêter l'imbécilité et le carnage. Donc je pense qu'il faudrait consacrer plus de moyens à l'éducation et à la culture, que la culture ne doit pas être quelque chose d'annexe, mais sans tout d'un coup dire « Ah oui, bah alors évidemment, il est comédien, donc il nous parle de la culture ». Je pense que c'est sans doute l'une des rares choses qui nous permet de réussir notre vie intérieure. Et c'est quoi une vie réussie ? Est-ce que c'est d'avoir gagné beaucoup d'argent, d'avoir eu son nom dans les journaux, etc. Je suis bien placé pour le savoir. Non pas que je gagne beaucoup d'argent, mais que...
On avait posé la question du salaire, d'ailleurs. Voilà,
mais que j'ai mon nom dans les journaux. Mais est-ce que c'est ça l'intérêt ? Je pense que c'est d'avoir une vie intérieure réussie, quoi. C'est quoi une vie réussie ? J'invite les gens à se poser la question et à peut-être investir davantage dans la culture, parce que je pense que c'est une des choses qui reste au moment où on va s'endormir à jamais, c'est peut-être une des choses qui restera et qui aura pu guider nos vies, quoi. Voilà.
Une dernière, qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou votre physique ?
Ce qui me déplaît le plus, de pas assez oser. Ouais, il faut de l'audace, en fait. Et j'ai mis du temps à avoir de l'audace. Je mets du temps à essayer d'en avoir encore. Et maintenant, j'en ai de plus en plus et je m'en félicite moi-même. je parle au petit enfant que j'étais. Mais l'audace, c'est nécessaire. Et puis mon physique, j'ai toujours trouvé, souvent, longtemps pensé que j'avais un physique lisse et passe-partout et inintéressant pour devenir comédien. Et en fait, c'est plutôt un atout parce que ça permet aux gens de s'identifier à un monsieur tout le monde et donc de pouvoir comprendre ce qu'il est en train de vivre à l'écran. Donc ça me plaît plutôt, finalement, quoi. Voilà.
Je retiendrai de l'audace, d'ailleurs, avec Germinal, quand même, ce soir, on le rappelle. Hein,
Ouais.
Sur France 2.
Ayez de l'audace. Regardez France 2 ce soir.
Ayez de l'audace. Merci, Guillaume de Tonquédec, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, ce soir, en prime time, hein, sur France 2, Germinal. Il y a trois soirées prévues. Hein, il y a deux épisodes par soirée. Évidemment, nous, on revient... je voulais dire un petit mot. Germinal, du roman à la série, un livre qui sort, d'ailleurs, ces jours-ci, qui raconte les coulisses Passionnant, très bien fait, qui vient de sortir tout juste. Et dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Et le best-seller revient, lui, demain avec un ou une nouvelle invitée.
Un nouvel invité. On dit que c'est l'animateur préféré des grands-mères. Il présente chaque après-midi sur France 3 Slam. Et là, il s'apprête à rejoindre Jean-Marc Généreux dans Spectaculaire. C'est Cyril Ferraud, voilà, qui sera avec nous à votre place demain.
C'est un très bon animateur. Voilà, et merci d'avoir reçu.
Merci, donc Germinal, Guillaume de Tronquédec, c'est ce soir, ne sortez pas devant, à 21h en prime time, la télé.
Devant mais retournez au théâtre dès demain, hein. Absolument.
Ah oui.
Merci encore, très bonne journée.
Merci.